9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Chantelle, dans l'Allier, dans la nuit du 7 au 8 septembre 1523. Un homme à cheval est en train de quitter le château qui était érigé sur un promontoire rocheux qui surplombe la Bouble, château qui appartient à la famille de Bourbon depuis des siècles. Cet homme qui s'enfuit et qui craint pour sa vie, pour sa liberté, n'est autre que le prince en personne, prince du sang, duc de Bourbon et d'Auvergne, connétable de France, c'est-à-dire la première épée du royaume, c'est Charles de Bourbon. Il a 33 ans seulement, celui qu'on appelle donc le connétable de Bourbon, et le voilà qui cherche la route d'Espagne. L'Espagne où il s'en doit retrouver l'empereur Charles, Charles Quint, ennemi juré du roi François Ier. Ça fait plusieurs mois que le connétable préparait son passage à l'ennemi, cette ultime trahison. Il sait que désormais il n'y aura plus de retour possible. Le duc de Bourbon veut la perte du roi de France que jusqu'alors il avait fidèlement servi. Extraordinaire retournement de situation. Alors, quelques jours plus tôt, Charles de Bourbon avait reçu dans sa capitale ducale, à Moulins, il avait reçu le roi. Et il était dans une situation très embarrassante car il ne voulait pas bien sûr révéler ses plans à François Ier, mais il n'était pas question qu'il joigne l'armée que François Ier emmenait en Italie. Alors, il s'était fait passer pour malade, il s'était allongé. Est-ce qu'il était véritablement malade et qu'il avait un peu forcé le trait, ou est-ce qu'il a carrément joué la comédie? Ça, les historiens ne sont pas tous d'accord sur la question. Toujours est-il que François Ier a fait comme s'il avait confiance, comme s'il croyait à la maladie de celui qu'il appelait « mon cousin ». Il a confié la surveillance du « malade » entre guillemets au seigneur de Varthy, Perrault de la Bretonnière. Malgré ça, il a envoyé 4500 fantassins et 500 cavaliers à Moulins pour finalement se saisir de la personne du connétable, sauf que Charles de Bourbon a été prévenu, il a réussi à se sauver, a trouvé donc refuge à Chantelle, d'où il a préparé ce fameux départ dont je vous parlais. Et le 7 septembre, il écrit plusieurs lettres au roi, à la mère du roi, Louise de Savoie, à la duchesse de Lorraine, sa sœur, et dans ces lettres, il s'excuse des chagrins qu'il a pu faire aux uns, aux autres. Il cherche à exprimer sa bienveillance à l'égard du pouvoir, ne réclamant que ce qui lui est dû. Il a été malmené, il a été persécuté et il est obligé de se défendre. C'est en tout cas ce qu'il dit dans ses lettres. Alors, est-ce que c'était sincère, cette justification? Est-ce que c'était une duperie de plus? Toujours est-il que le soir même, il quitte donc Chantelle dans le plus grand secret, s'engage sur les routes. On est au début du mois de février 1524 quand on le voit à Gênes, donc il est passé outre-mont, comme on dit. Et puis de Gênes, eh bien, il va trouver un navire pour essayer de rejoindre l'Espagne et aller voir son nouveau maître, l'empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Vous imaginez cette fuite du connétable qui fait grand bruit à la cour, dans tout le royaume. C'est un événement considérable. Le premier soldat de France vient d'aller mettre son épée entre les mains de l'ennemi du roi de France. Comment est-ce possible? Comment est-ce que cette brillante carrière militaire, comment est-ce que celui qui a été l'un des artisans de la victoire de Marignan quelques années plus tôt, qui a été chargé d'honneur par le roi lui-même, comment a-t-il pu tomber dans une telle disgrâce?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Faut vous expliquer qu'à la fin du 15e et au début du 16e siècle, le duché de Bourbon, c'est le dernier grand territoire encore indépendant, en tout cas autonome, au cœur même du royaume de France. Ça en constitue le nombril. Sous le principat de Pierre de Beaujeu, donc à la fin du 15e siècle, le duché a atteint une sorte d'apogée politique, culturel. C'est un très gros territoire. Hein. Une partie des terres qui relèvent de son autorité sont des apanages, c'est-à-dire des domaines qui, en l'absence d'héritiers mâles, doivent finir par rentrer dans le giron de la couronne. Hein. On donnait des apanages à un certain nombre de princes pour leur octroyer les revenus afférents, ce qui leur permettait de tenir leur rang à la cour. Et puis, s'ils n'avaient pas d'héritiers mâles à qui transmettre ce territoire, cet apanage, eh bien, on rendait le territoire à la couronne. Sauf que Pierre de Beaujeu, en l'occurrence, n'a pas eu un héritier, mais une héritière, Suzanne. Or, cette héritière, il l'a eue avec la fille du roi, avec Anne de France, la fille de Louis XI. En 1499, à l'occasion d'un accord qui est passé entre Anne de France et le roi Louis XII, la couronne consent à ce que cette héritière retienne pour elle les fameux apanages, toute la totalité des biens de son père. Elle va pouvoir transmettre cet héritage à son époux et ensuite à ses enfants. Il faut bien comprendre que ça, c'est une entorse considérable aux lois du royaume. C'est-à-dire que, normalement, une fille ne peut pas hériter des apanages et les transmettre à sa propre famille. En 1503, c'est la mort de Pierre de Beaujeu et son épouse, Anne de France, Anne de Beaujeu, donc la fille de Louis XI, celle qui a assuré la régence pendant la minorité de son frère Charles VIII, eh bien, elle doit maintenant assurer la continuité du duché. Et elle va marier sa fille, 2 ans plus tard, en 1505, à Charles de Bourbon-Montpensier. Le voilà, c'est lui, celui qui deviendra connétable de Bourbon. C'est lui maintenant qui est à la tête de cet énorme territoire, de cette principauté, si vous voulez. L'alliance entre les deux branches porte d'ailleurs le duché à un apogée territorial, un domaine qui est donc au centre du royaume, qui s'étend quand même de la Marche au Beaujolais, en englobant tout le Bourbonnais, l'Auvergne, jusqu'au duché de Châtellerault, vous imaginez, dans le Poitou, jusqu'au comté de Clermont en Beauvaisis, en Picardie, vous voyez l'immensité de ce territoire. Et vous comprenez que, pour l'État royal, avoir un prince du sang qui est à la tête de cet énorme territoire au cœur même du royaume, c'est un problème, bien sûr. Or, le couple de Suzanne et de Charles de Bourbon n'a toujours pas eu d'enfant et Suzanne meurt à l'âge de 29 ans. D'où une crise de succession terrible. L'immense principauté, elle a eu d'ailleurs un enfant mais qui est mort, etc. L'immense principauté attise les convoitises, notamment celle de la couronne, et ces convoitises, elles vont s'exprimer par la voix de la mère du roi, la mère de François Ier, Louise de Savoie. Dès la mort de la duchesse de Bourbon, Louise affirme être l'héritière d'une partie des domaines de la défense, de la défunte, ceux qui n'étaient pas apanagés. Après tout, c'est la plus proche parente par les femmes, donc elle doit hériter toutes ces terres qui ne font pas partie des apanages de la couronne. C'est le début de la disgrâce pour le connétable de Bourbon. On dit même, alors c'est une affaire qui est débattue là encore, que la mère du roi est allée jusqu'à proposer à Charles de Bourbon, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, de l'épouser, ce qui permettrait de régler la question. Bourbon se sent malmené. Il estime que la couronne se comporte mal avec lui. La reine-mère réfléchit à une action en justice pour casser le testament de Suzanne de Bourbon. Et en janvier 1522, le procès s'ouvre au Parlement de Paris. Le Parlement de Paris qui n'est pas un Parlement politique, pas essentiellement. C'est une cour de justice en dernier recours à l'époque. Donc on ouvre ce procès et pour préserver son héritage, le connétable reste à Paris pendant que le roi traverse les Alpes afin de s'en aller recouvrer le Milanais. Vous avez bien compris qu'il y a maintenant au sein du royaume de France un très grand seigneur qui s'estime malmené par la couronne et qui n'est plus le fidèle serviteur qu'on ne serait en droit d'attendre de son titre.
Le scherzo de la deuxième symphonie de Saint-Saëns était interprété par l'orchestre symphonique de l'Utah sous la direction de Thierry Fischer.
Vous écoutez Radio Classique.
Il y a donc un procès maintenant. Procès devant le Parlement de Paris pour essayer de déposséder le connétable de Bourbon d'une grande partie des territoires qu'il a hérités par mariage, sachant que sa propre épouse en avait elle-même indûment hérité par un accord passé avec la couronne, mais qui contredisait les grandes habitudes qui étaient immémoriales dans le royaume. Et lors du procès, c'est vrai que le roi et sa mère, Louise de Savoie, sont représentés par des avocats très habiles qui, pour défendre les droits de la couronne, se lancent dans tout un travail de recherche généalogique et qui vont tenter de prouver que Louise de Savoie est, en termes de parenté, plus proche de Suzanne que le connétable lui-même. Et pendant plusieurs mois, les avocats des deux parties vont se livrer une espèce de bras de fer incroyable. Le bras de fer en question, il n'est pas seulement entre Louise de Savoie et Charles de Bourbon, il est surtout en vérité entre la mère du roi et celle qui a été la fille de Louis XI, Anne de France, cet extraordinaire personnage, Anne de Beaujeu, qu'on appelle Madame la Grande, vous savez, qui a été une des grandes figures politiques de la toute fin du XVe siècle, qui a maté les princes rebelles lors de la guerre folle, qui a permis le rattachement de la Bretagne au royaume, qui est la dernière grande représentante des Valois directs. Vous comprenez que en s'attaquant au connétable et à ses biens, François Ier s'attaque aussi et d'abord à Anne de France. La vérité, c'est que c'est une guerre des dames, cette histoire. C'est un bras de fer entre Louise de Savoie et Anne de Beaujeu. Surtout lorsque vous savez que Louise de Savoie a été élevée par Anne de Beaujeu et qu'elle lui en veut, qu'elle a été très malheureuse à l'époque où elle vivait chez elle, à Chantelle et à Moulins. Vous voyez donc l'extrême complexité familiale qui vient se superposer aux intérêts d'État et aux intérêts d'argent, disons-le. On dit que c'est Anne de Beaujeu qui aurait incité Charles de Bourbon à s'en aller directement traiter avec Charles Quint. Ça, on ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le 14 novembre 1522, dans sa belle résidence de Chantelle qu'elle aimait tant, Anne vient à mourir. Et ça, c'est un événement qui va tout changer. D'un seul coup, le connétable se sent plus libre. C'est comme si un verrou avait sauté. 13 jours après la mort de sa belle-mère, le 26 novembre, avant même la fin du procès, donc, François Ier va dépouiller le connétable d'une partie de ses biens. C'est une véritable spoliation. Le connétable s'estime spolié par la couronne de France. On n'attend même plus l'issue du procès, puisque on n'a plus à craindre la colère d'Anne de France. Eh bien, on s'attaque directement à son gendre. Et ça, c'en est trop pour Charles, qui se sent humilié et qui estime qu'il n'a plus le choix, que devant des actes d'autorité aussi violents contre ses intérêts et ceux de sa famille, il n'a pas d'autre choix que de se retourner vers l'ennemi du roi de France. Il est, lui, dans une logique qui reste une logique féodale, si vous voulez. Vous n'êtes pas, quand vous êtes un vassal, vous n'êtes pas forcé d'obéir à un suzerain qui se montre indélicat envers vous. Eh oui, sauf que les logiques, elles ont changé entre-temps et que l'on est entré maintenant dans des logiques nationales. Je cite Didier Le Fur. Toujours un grand plaisir de citer Didier Le Fur dans sa biographie de François Ier. « Ce fut lors de l'été 1522 que les contacts s'établirent entre le duc et le roi des Romains. N'ignorant rien de la situation du connétable, le roi des Romains lui demandait de devenir son beau-frère en lui proposant d'épouser une de ses sœurs, Éléonore, veuve du roi Emmanuel de Portugal, ou Catherine, sa cadette. » Mais l'alliance n'était pas seulement matrimoniale. Charles d'Autriche espérait utiliser la colère du connétable à son profit et par lui venir plus facilement à bout de celui qui refusait toujours de le reconnaître comme empereur. Charles de Bourbon participerait donc à la ruine de François Ier. Quant au plan d'attaque du royaume, Charles de Bourbon prendrait la tête d'une armée qui agirait en étroite collaboration avec celle du roi des Romains et de ses alliés. Le roi des Romains, l'héritier de l'Empire, si vous voulez. Charles d'Autriche attaquerait le Languedoc, favorisant ainsi l'entrée dans le royaume d'une armée de plus de 40 000 hommes. En même temps, Henri VIII d'Angleterre prendrait pied sur le continent avec 15 000 fantassins et 1 600 chevaux légers et beaucoup d'artillerie. Leur mission, marcher sur Paris.
Quant à Bourbon, en plus des forces rassemblées dans le royaume, il recevrait un secours de 10 000 lansquenets venus de l'Empire par la Franche-Comté. L'offensive serait lancée quand François Ier serait à Lyon et son armée qu'il préparait pour envahir le Milanais déjà sur le chemin des Alpes. Maintenant que François Ier a pris la tête de son armée, qu'il est en train de franchir les Alpes pour s'en aller se battre en Italie, le connétable va être au cœur de cette espèce de machination qui aboutit à une invasion du royaume par le sud, par l'ouest, par l'est, et qui est au cœur de tout ça, c'est le connétable lui-même. Le connétable qui s'est enfui, vous l'avez vu, dans la nuit du 7 au 8 septembre. Les principaux complices du connétable, ceux qui s'étaient réunis avec lui au donjon de Montbrison pour officialiser cette trahison, sont arrêtés, en tout cas la plupart de ceux qu'on a trouvés. On les interroge et on se rend compte que le réseau des complices n'est pas si étendu qu'il en avait l'air. Le 7 mars 1524, j'ai pas dit 2024, évidemment, François Ier tient un lit de justice au Parlement en présence de tout le tribunal et d'un certain nombre de grands seigneurs du royaume. Le connétable est accusé solennellement de crimes, de rébellion, félonie, transfuge et lèse-majesté, condamné à mort, ai-je besoin de vous le dire, ses biens séquestrés pour revenir à la couronne. C'en est fini de ce grand duché de Bourbon et c'est le début, pour le connétable lui-même, d'une terrible aventure. L'Orchestre National Royal d'Écosse, sous l'direction de Némé Yervy, interprétait cette ouverture pour un Faust de Richard Wagner.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Le conflit va se poursuivre en Italie. Beaucoup de chevaliers français vont perdre la vie. Et parmi eux, Bayard. Et c'est dans ses mémoires que Du Bellay, ce qu'il faut le croire, raconte cet échange entre le connétable de Bourbon, qui donc vient de trahir son roi, et le bon chevalier Bayard. Encore un 500e anniversaire qui, la colonne vertébrale brisée par un coup d'arquebuse, est là en train de mourir sous un arbre. « Ah, monsieur de Bayard, dit le connétable de Bourbon, que j'ai grand pitié de vous voir en cet état, vous qui fûtes si vertueux chevalier. » Et Bayard lui aurait répondu, « Monsieur, il n'est besoin de pitié pour moi, car je meurs en homme de bien, mais j'ai pitié de vous, car vous servez contre votre prince et votre patrie. » Toujours est-il que les défaites françaises vont se succéder en Italie, ce qui évidemment donne de la force aux coalisés. Le connétable de Bourbon est financé par Charles Quint, aussi un peu par la couronne d'Angleterre, il faut bien le dire, et il met sur pied une véritable armée d'invasion, armée qui, avec beaucoup de grosses pièces d'artillerie, doit fondre sur la Provence en juillet 1524. Les Provençaux n'ont pas oublié cet épisode, je puis vous le garantis. François Ier, pendant ce temps-là, ne reste pas inactif. Il rassemble ses troupes pour fondre vers toute la partie sud du royaume. Et par ailleurs, l'armée espagnole qui doit faire la jonction en Provence avec le connétable n'arrive pas. Ça, c'est la grande chance de François Ier, c'est qu'il y ait ce retard des impériaux. À Marseille, qui est resté fidèle au roi de France, on se prépare au siège qui commence En août 1524, à la mi-septembre, la ville n'est toujours pas prise. Faut dire que les murs de Marseille, ça n'est pas rien. Et devant l'avancée menaçante de François Ier, le connétable a le choix. Soit il livre bataille, soit il rentre en Italie. C'est ce qu'il va faire, repartir pour l'Italie. Il veut profiter de la fuite de son ancien vassal, François Ier. Et donc, puisqu'il voit le connétable s'en aller, eh bien, il décide de le suivre, de repasser, lui aussi, en Italie. À la fin de octobre 1524, Milan est de nouveau française, mais pour vider définitivement la présence espagnole dans la région, faut prendre les autres villes. Les Français ont le choix. Ils vont opter pour Pavie. Ben, la suite, vous la connaissez. Cette épouvantable défaite totale de Pavie, la Trimouille, la Palice, Bonnivet, tous les meilleurs capitaines français tués, le roi fait prisonnier, emmené à Madrid. Il est blessé d'ailleurs, François Ier. Et là-bas, on va lui imposer ce traité, le traité de Madrid, qui consacrera la réhabilitation de Charles de Bourbon et de ses complices. Notamment, François Ier signe le traité, mais il n'a aucune intention de tenir parole.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
En 1527, le roi François est de retour en France. Ce sera la 7e guerre d'Italie qui verra s'affronter les armées de Charles Quint et celles de la Ligue de Cognac. Et au matin du 6 mai 1527, Charles de Bourbon est sous les murs de Rome. Oui, ça y est, c'est l'époque du siège de Rome. Il donne l'assaut sur la ville éternelle. Il participe en personne à cet exploit militaire. Il est en train d'escalader le mur d'enceinte quand un coup d'arquebuse le touche à l'aine. Il va mourir peu de temps après, à l'âge de 37 ans. Voilà comment meurt le connétable de Bourbon, un des hommes les plus fameux de son temps, dernier grand vassal du roi de France, dernier prince médiéval, j'oserais presque dire féodal du royaume. La couronne, désormais, n'aura plus de concurrent en son sein. Le pouvoir royal pourra s'exprimer dans toute sa dimension. On pourrait presque dire, en tirant un peu la couverture de l'histoire, que la mort du connétable de Bourbon, c'est le début de la monarchie absolue.
Vous écoutez Radio Classique.
Vous écoutez Radio Classique, vous écoutiez ce récit par Gaspard Le Marinier, et voici Christian Morin. Bonjour Christian.
Merci mon cher Franck, et bonjour. Alors, après cette trahison du connétable de Bourbon, on va passer 170 ans plus tard à une autre aventure, c'est la Vendée que vous raconterez cet après-midi. Mm-hmm. La Vendée, ça a commencé un petit peu comme ce que vous évoquiez hier, à propos du livre de Christophe Barbier, par une jacquerie au départ, je crois.
Oui, en tout cas une révolte face au pouvoir central. Où il y en a eu tellement en France,
voilà.
Vous avez raison.
Donc la Vendée à 14h, et puis alors, dans Historia, je vous l'ai dit il y a quelque temps, et j'aimerais bien que vous nous racontiez un jour l'histoire de cette femme qui a déclaré un jour, je crois que c'est à la suite d'une interview que vous devez donner, qu'elle vous a donnée ou accordée, si j'avais dû choisir deux figures dans l'histoire de la musique, j'aurais choisi Mozart comme copain et Beethoven pour amant, car il aurait été un mari épouvantable. C'est une confidence quand même.
Je vous vois venir.
Osez, vous voyez de qui il s'agit. C'est Mademoiselle Ève Ruggieri.
Mais oui.
C'est son anniversaire aujourd'hui.
Mais oui, figurez-vous. Bon anniversaire, chère Ève.
Oui, oui, bon anniversaire. Alors, elle est là au téléphone en plus.
Ah oui,
oui, ah ben oui, oui, oui. Elle se lève très tôt. À quelle heure vous êtes-vous levée, ma chère Ève, aujourd'hui?
Comme d'habitude, 6 heures.
Ben voilà. Je ne vous ai pas entendu vous lever, ma chère Ève.
Mais oui, j'étais étonnée de ne pas voir apparaître mon petit déjeuner.
Oui, mais là, je m'en occuperai dès demain, et avec Franck de surcroît. On voulait vous embrasser, tout Radio Classique est autour de nous, Bertrand Dermoncourt en tête, bien
vraiment.
Sûr, pour vous souhaiter un très très bel
et
anniversaire.
Et tous nos auditeurs, parce que, évidemment, dès que je croise des auditeurs de Radio Classique, ils me parlent d'Ève.
Voilà. Je vais vous dire, c'est quand même surprenant, parce qu'au moment... Vous m'appelez, j'étais en train de lire La Dame à l'Hermine
ah
de
oui.
Léonard de Vinci dans le Nouvel Historia, oh qui était patent.
Magnifique.
Et auquel j'ai eu l'honneur de participer.
N'est-ce
pour ce numéro 1. Voilà, donc.
Merci encore, Ève. Merci.
Alors, ma chère Ève, je profite de votre présence au micro pour rappeler votre livre au cas où je mourrais. Mais alors là, vous avez tout à fait le temps. C'est chez Flammarion. D'abord, il faut lire le livre. Et nous, on va vous faire un petit cadeau avec Franck et avec Radio Classique. Et Francis Drezel aussi, qui ne vous a pas oublié et qui vous embrasse. Car à vous lire dans Historia, vous dites « Je suis tombée amoureuse de Beethoven quand j'avais 6 ans ». J'avais entendu la lettre à Élise à la radio et à partir de là, je chantais à tue-tête cette chanson. Et puis plus tard, le conservatoire et les concerts m'ont permis d'entendre d'autres œuvres de Beethoven, dont le concerto L'Empereur pour piano, qui m'a ébloui. Eh bien, permettez-nous, Franck et moi et tous les auditeurs et tout Radio Classique, de vous éblouir ce matin avec Christian Zacharias au piano, l'orchestre de la Suisse romande, Armin Jordan dirigeant, avec le deuxième et le troisième mouvement de ce concerto pour piano et orchestre numéro 5 que vous adorez. Ça sera notre petit cadeau musical et toutes les notes qui vont s'évaporer de cette œuvre seront autant de jolis cœurs qui vont vous entourer toute la journée.
Eh bien, merci à Francis qui a choisi une version que j'adore. Et merci à vous tous de Radio Classique avec lesquels je suis tous les matins.
Bon anniversaire, Eve.
À bientôt,
merci
Eve.
Merci beaucoup, à bientôt.